Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons des énergies renouvelables en Afrique, dans un continent où la pénurie d'électricité est chronique, où les capitaux manquent cruellement. Les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques sont-elles la solution? Quel est l'état des lieux? Quels sont les financements possibles? Et ces énergies sont-elles rentables? Telles sont quelques-unes des questions que nous allons aborder avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Charlotte Aubin-Caledjian.
Bonjour Jean-Pierre.
Charlotte Aubin-Caledjian, vous êtes la fondatrice et PDG de la société Greenwich qui se décrit comme un pionnier, une pionnière des énergies renouvelables en Afrique, c'est-à-dire, pourquoi pionnière ?
Pionnière parce que nous avons la fierté d'avoir réalisé la première centrale solaire en Afrique subsaharienne de taille industrielle au Sénégal que nous avons raccordée en octobre 2016 et qui fournit de l'électricité pour à peu près 180 000 personnes.
Nous en reparlerons bien sûr dans cette émission un peu plus tard, mais avec nous dans ce studio également Mireille Chiroulot-Assouline. Bonjour madame.
Bonjour.
Mireille Chiroulot-Assouline, vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous enseignez l'économie de l'environnement. Vous êtes aussi chercheuse à l'École d'économie de Paris. Est-ce que ce qui se passe en Afrique sur le terrain environnemental fait partie de votre enseignement ?
Alors, ça fait partie de l'enseignement en économie de l'environnement, en économie du développement durable et en économie du développement, forcément.
Mais de quoi parlez-vous précisément ?
Nous parlons des enjeux de l'accès à l'énergie, nous parlons des conséquences qu'ont les difficultés actuelles d'accès à l'énergie et nous parlons aussi des possibilités qui sont ouvertes pour faciliter l'électrification, en particulier de l'Afrique.
Alors je termine ce premier tour de table par vous, Fabrice Le Sachet. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Le Sachet, vous dirigez le groupe AERA, que vous présentez comme le leader sur le continent africain concernant l'ingénierie financière climatique. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, c'est très simple. En fait, nous accompagnons des entreprises qui réduisent les émissions CO2. Nous certifions ces réductions d'émissions et nous les monétisons, nous les valorisons économiquement, financièrement, pour avoir des bonus de revenus pour ces projets verts, ces projets vertueux. Comme les projets d'énergie renouvelable, par exemple.
Comme les projets de Charlotte Aubin.
Comme le projet de Charlotte que nous avons accompagné.
Alors, au cours de cette émission des reportages, nous irons à Johannesburg rejoindre Noé Ochet-Baudin, à Nairobi, où nous attend Abla Junaidi, et au Maroc, où se trouve Sarah Doublier. Charlotte Aubin-Caledjian, pourquoi faut-il développer les énergies renouvelables en Afrique ?
Ah, c'est mon débat préféré. Alors, quelques clichés que je rappellerai. Vous savez que 2/3 du continent n'a pas accès à l'énergie. Hein, c'est 600 millions de personnes. Mais c'est pas que 600 millions de personnes. C'est aussi beaucoup d'industries, beaucoup aussi de secteurs privés des services qui ont un déficit énergétique et une grande dépendance aux énergies fossiles et aux énergies diesel. Ça veut dire cher. Pas toujours fiable, notamment en site isolé.
On peut rappeler ce que sont les énergies fossiles, les énergies diesel ?
Alors, les énergies fossiles sont tout d'abord le charbon, ça c'est celle que l'on bannit, le gaz qui est disponible dans pas mal de pays en Afrique et qui, quand il est disponible, peut être une source d'énergie très compétitive, mais celles que nous bannissons le plus sont les énergies d'appoint, comme le diesel HFO, qui sont souvent utilisés dans les zones non électrifiées. Ce qui veut dire que beaucoup de sites isolés, comme des miniers, des cimentiers, ou qui sont dans des sites isolés, mais aussi des populations non raccordées au réseau, font appel à ces énergies, à ce diesel, comme énergie de base, qui veut dire des énergies polluantes, mais surtout très très chères. Le rôle des énergies renouvelables sur le continent africain est de compléter le mix énergétique à moindre coût, avec fiabilité et responsabilité environnementale. Mais en particulier dans les zones décentralisées. Nous avons décidé en 2014 de nous concentrer sur le continent africain.
Quand vous dites nous, c'est votre entreprise?
Greenwich, oui. Greenwich a décidé de se concentrer sur le continent africain parce qu'on voyait une grande possibilité de contribuer à l'électrification propre du continent grâce aux énergies renouvelables qui sont aujourd'hui compétitives et fiables. Et dans le contexte africain, où on a des ressources renouvelables importantes, on va parler de l'éolien, les ressources solaires, mais aussi hydro, permettent de développer un mix énergétique propre, mais aussi d'accélérer, en particulier dans les zones décentralisées, où apporter le réseau électrique des sociétés d'électricité prendrait un temps beaucoup plus important et des investissements beaucoup plus importants.
Mireille Firoulou-Assouline, qu'est-ce qui compte le plus, lutter contre le réchauffement climatique en Afrique ou amener une énergie moins chère?
Ben, je pense que les deux peuvent aller de pair. C'est-à-dire que lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter, comme l'a dit Madame Aubin, c'est lutter contre l'usage des énergies fossiles. Et toutes celles qu'elle a citées sont fossiles. Le diesel est fondamentalement une énergie fossile. Alors ces énergies-là dégagent du CO2 au moment de leur combustion. Et le gros inconvénient du diesel, c'est qu'il a aussi un effet très néfaste pour les populations locales parce qu'il provoque aussi une pollution locale, une pollution par les particules. Et donc, c'est un enjeu fondamental. Ça permet de lutter contre le réchauffement climatique qui est un problème au niveau de la planète et qui aura des conséquences encore plus importantes au niveau africain que dans d'autres pays. Et en luttant contre l'usage de ces énergies fossiles, il est possible de mettre en place des infrastructures qui permettent à l'ensemble des populations africaines ou à une plus grande partie des populations africaines d'accéder à l'usage de l'électricité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc on peut agir sur les deux plans.
Fabrice Le Sachet, pourquoi est-ce qu'il faut développer le renouvelable en Afrique?
Bah, pour plusieurs raisons, la question du réchauffement qu'on vient d'évoquer, elle est devant nous. L'Afrique n'émet que 4% des émissions mondiales. C'est l'explosion démographique qui nécessitera de nouvelles capacités installées qui est le vrai enjeu. Est-ce que ces nouvelles capacités installées fonctionneront à partir de ressources fossiles, thermiques, ou est-ce que ce seront des énergies renouvelables? Et là, il faut évidemment qu'il y ait des bonus de revenus, qu'il y ait une finance climatique qui se mette en place pour permettre à des porteurs de projets publics privé de faire ce choix rationnel économiquement d'aller vers le renouvelable. C'est le rôle de la finance climatique d'une façon large, c'est le rôle des crédits carbone d'apporter des revenus complémentaires pour ces porteurs de projets en phase d'exploitation.
Alors on verra dans la deuxième partie de l'émission ce que sont précisément ces crédits carbone, mais on a un peu l'impression qu'on parle de projets un peu au milieu de nulle part. L'Afrique, c'est un continent qui est en voie accélérée d'urbanisation. Est-ce qu'on peut alimenter en électricité une ville de plusieurs millions d'habitants ou des villes de plusieurs millions d'habitants avec des projets solaires ou éoliens, Charlotte Aubin?
Alors, il y a deux perspectives, il y a deux types de projets. Il y a les projets qui sont décentralisés, non raccordés au réseau, et ça qui peuvent servir des communautés isolées ou des industriels en site isolé. Et puis, il y a les réseaux. La plupart des villes sont raccordées au réseau. Je vous donne l'exemple de notre ferme solaire au Sénégal. Elle est à la frontière de la Mauritanie, mais elle est sur la ligne à haute tension qui va jusqu'à Dakar. Ce qui veut dire que injecter dans le réseau au nord du pays contribue à augmenter la disponibilité d'électricité qui va aussi alimenter la zone urbaine. En zone urbaine, on a rarement l'espace nécessaire et c'est pas forcément les zones les plus ensoleillées pour mettre en place ni du solaire ni de l'éolien. Pour autant, il y a cet accès par le réseau. Et le deuxième point, ce qui se développe énormément, on va le voir sur le reportage de Johannesburg, c'est les solutions de solar home system et de production individualisée. Je pense que le continent, tout comme cela se développe en Europe, aux États-Unis, une partie de la solution de la problématique de l'accès à l'électricité va se faire par les solutions solaires batteries avec des solutions individualisées.
On va partir sur le terrain tout de suite. Premier exemple dans cette émission, en tout cas, de pays africains qui se lance vigoureusement dans les énergies renouvelables, Maroc, qui dépend encore à 90% de ses importations pétrolières pour produire son électricité. Depuis 2009, le royaume chérifien s'est lancé dans un vaste projet visant à réduire sa dépendance énergétique. Objectif, atteindre d'ici à 2020 42% d'énergie renouvelable. Pour y arriver, le Maroc construit massivement dans le solaire, mais aussi dans l'éolien. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Sarah Doublier.
Sur les crêtes montagneuses de la région de Tanger se dressent plus d'une centaine d'éoliennes. Le parc de Darsa Adan est, avec ses 107 MW de puissance installée, le plus grand parc éolien d'Afrique. Mohamed Aruijal est directeur du parc.
Le parc va contribuer à la réduction de la facture en électricité au Maroc et permet d'économiser 126 000 tonnes de fuel par an et une réduction de gaz à effet de serre de 368 000 tonnes de CO2 par année. Et surtout pour la sécurité nationale, on a intérêt à diversifier nos ressources de production d'énergie.
Pour se libérer de sa dépendance au pétrole, le Maroc est aussi lancé dans un ambitieux plan solaire. Sa vitrine, la centrale thermique de Ouarzazate aux portes du désert, avec un coût non négligeable de 3 milliards d'euros, l'un des objectifs est aussi de rentabiliser l'installation pour, à terme, exporter de l'électricité propre vers l'Europe. Rachid Bayed est ingénieur de la centrale Nour.
Ça fait partie des objectifs. En tous les cas, on est en train de produire des centrales. Ces centrales, au travers les interconnexions qui existent avec l'Europe, peuvent bien évidemment exporter l'énergie produite vers l'Europe. Mais ceci étant, il y a un certain nombre d'accords, un certain nombre d'actions qui doivent être menées dans ce sens.
Une technologie de pointe utilisant l'énergie solaire à condensation permettant de stocker plus longtemps l'électricité produite a été mobilisée. Un investissement nécessaire pour un pays qui voit ses besoins augmenter de manière exponentielle, selon Mustapha Bakouri, président du directoire du MAZEN, la puissante agence de l'énergie solaire au Maroc.
Dans le domaine de l'énergie, on décline une stratégie prospective. Le but principal est évidemment d'accompagner la dynamique de développement. Et pour ça, évidemment, toute croissance a un corollaire, un besoin d'énergie. Pour une croissance de l'ordre de 5 à 5,5 et un corollaire en demande électrique, un doublement des capacités électriques tous les 10 ans. C'est un défi majeur pour un pays, le Maroc, qui n'a pas de ressources. Mais nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité.
Si le Maroc a fait un pari coûteux pour un pays en développement, pour Yacine Fall, représentante de la Banque africaine de développement, le Maroc est un précurseur sur le continent.
Le défi de l'énergie en Afrique, il se pose quelle que soit la source d'énergie qu'on peut avoir à portée de main. Vous avez un pays en développement qui donne l'exemple au monde.
Un exemple qui devra se concrétiser par l'objectif ambitieux d'atteindre les 52% de part d'électricité produite à partir du renouvelable d'ici 2030 au Maroc.
Un reportage signé Sarah Doublier au Maroc. Mireille Chiroulois souligne, le Maroc donne l'exemple au monde en matière de volonté de se développer dans les énergies renouvelables ?
Le Maroc a une politique extrêmement active, effectivement, dans le domaine de l'éolien, dans le domaine du solaire. Les objectifs sont sans doute des objectifs essentiellement nationaux pour couvrir les besoins de la population. Mais peut-être y a-t-il aussi à terme des objectifs comme la Tunisie d'exporter vers l'Europe l'électricité produite.
Fabrice Le Sachet, où est-ce qu'on en est en Afrique en matière d'énergie renouvelable aujourd'hui ? Là, on parle d'objectifs pour le Maroc, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Bon, alors, tout d'abord, nous avons la chance d'accompagner une quarantaine de projets dans 18 pays. Nous intervenons
quand
en amont.
Quand vous dites nous, c'est votre groupe.
Ce qui fait qu'on a un rôle de vigie. On a une vision assez panoramique des tendances. Et la situation, elle est disparate et fluctuante. Le Sud-Soudan, c'est quasiment aucun réseau. Le Tchad, le Niger, le Burkina Faso sont des puissances installées extrêmement restreintes. Et puis, à l'inverse, on a des pays qui explosent. Le Sénégal, par exemple, qui s'est doté en l'espace d'un an et demi de 5 ou 6 centrales solaires photovoltaïques de 20 à 30 mégawatts. Donc, disparate et fluctuant. Ça, c'est la première chose. Deuxième tendance technologique, on voit une multiplication des projets solaires photovoltaïques raccordés au réseau ou hors réseau. Une multiplication des projets hydroélectriques qui sont directement liés à la présence de Chino Hydro en Afrique qui construit énormément de barrages.
Donc les Chinois.
Alors, pour les barrages hydroélectriques, parce que on peut en parler des Chinois, mais le deuxième pays qui installe des capacités installées en Afrique, c'est la France. Rapport de l'Agence internationale de l'énergie de l'année passée. Et ça, c'est contre-intuitif. Donc, il faut quand même le souligner qu'on est très présent et surtout sur le segment des énergies renouvelables. Donc, la deuxième tendance, elle est technologique. La biomasse et l'éolien sont un peu en retard. On a quelques pays comme le Maroc, aujourd'hui la Mauritanie.
Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est que la biomasse?
Alors la biomasse, c'est l'utilisation de ressources agricoles, de déchets verts qui proviennent de plantations, le palmier à huile, le sucre, la bagasse, et qui sont utilisés pour produire de l'énergie sans carbone injectée sur le réseau, qui sont utilisés par des industriels dans leur processus industriel. La cogénération à partir de bagasse, par exemple, on a deux projets, un au Sénégal avec la compagnie sucrière sénégalaise, un en Ouganda avec l'équivalent de la CSS, et ça peut être très intéressant en termes d'efficacité énergétique. C'est une quatrième tendance, beaucoup d'industriels ont recours aux énergies renouvelables parce qu'ils y trouvent une économie d'énergie ou une meilleure efficacité ou performance de leur système. Et puis le dernier point, c'est la question des financements. On voit quand même beaucoup de projets qui sont bloqués soit sur des négociations de tarifs de rachat, soit sur des questions de garantie. On voit aussi énormément de projets qui sont bloqués par les réseaux. La question de l'intermittence, de la gestion de cette injection d'énergie renouvelable. Et là, la question du financement, c'est aussi lié au surendettement de certains États africains. Et là, on peut reboucler avec la Chine que vous évoquiez, qui arrive avec des taux concessionnels, des maturités longues, mais il faut quand même les rembourser. C'est prêt.
Charlotte Aubin-Caladjian, est-ce qu'il faut des États forts pour développer le solaire, l'éolien, le renouvelable? Est-ce qu'il faut une volonté nationale forte?
J'ai plusieurs éléments de réponse à ça. Le premier, c'est qu'en effet, il faut une volonté politique. Pourquoi le Sénégal a réussi et pourquoi est-ce que nous avions fait le pari sur le Sénégal? C'est parce qu'il y avait un grand engagement du président Macky Sall pour développer les énergies renouvelables et qui a payé. Et il a mis aussi des compétences très fortes au sein de ses équipes, ministère de l'énergie, société d'électricité. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à développer ces premiers projets. Alors, nous faisons toujours appel et faisons beaucoup de publicité pour que les États soient accompagnés des bailleurs de fonds, notamment sur des compétences techniques, sur des compétences légales, pour avoir une capacité à négocier avec le secteur privé. Alors, et il y a une deuxième tendance que pour laquelle nous aujourd'hui faisons beaucoup de lobby, c'est ce qu'on appelle l'autogénération ou en anglais le wheeling power. Ce que l'on voit, Fabrice l'évoquait, amortir une ferme solaire ou une centrale éolienne se fait sur 20 ans. Ça veut dire que l'État où la société d'électricité doit s'engager sur un contrat de rachat et un tarif sur 20 ans. Et l'État, derrière, souvent, doit apporter une garantie souveraine parce que ces sociétés d'électricité sont déficitaires structurellement. L'énergie est subventionnée parce qu'elle est trop chère. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les États doivent avoir des bilans importants et souvent, ces projets impactent leur budget étatique. Donc, nous, ce que l'on voyons, il y a aujourd'hui un grand mouvement de libéralisation de la génération vers le secteur privé. Et c'est notre rôle, producteurs d'énergie indépendants, de fournir, avec nos compétences et des obligations de performance, de l'électricité. Nous poussons également pour la libéralisation de la distribution pour que les industriels raccordés au réseau puissent directement acheter l'électricité produite par le secteur privé. De ce fait, on allège les engagements de l'État.
Mireille Chiroulois-Souline, vous vouliez intervenir?
Oui, sur le fait que le rôle de l'État et sa capacité à mener des projets est souvent fondamental. C'est d'autant plus vrai dans d'autres types de ressources renouvelables, par exemple pour l'hydroélectrique, hein, où là les infrastructures construites sont de très grande ampleur et peuvent avoir des impacts aussi très importants sur les populations locales et sur l'environnement.
Mais quand on voit d'énormes barrages comme ce qui se fait en Éthiopie, par exemple, les barrages JB et Renaissance, est-ce qu'on peut encore parler de renouvelable?
C'est renouvelable au sens où la ressource en eau est renouvelable et elle n'est pas dépensée par le fait qu'à un moment donné, elle transmet son énergie et qu'on en produit de l'électricité. Après, il peut y avoir des quantités de problèmes environnementaux liés à ce type d'infrastructure.
Alors, nous parlerons de tout ça au cours de la deuxième partie de cette émission, parce que pour l'instant, nous nous arrêtons. Nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. Restez à l'écoute sur RFI. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la question des énergies renouvelables en Afrique. Trois invités dans cette émission, Mireille Chiroulot-Assoline, professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Charlotte Aubin-Calédian, présidente de la société Greenwich, et Fabrice Le Sachet, président du groupe AERA qui fait de l'ingénierie financière climatique en Afrique. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu pourquoi le développement des énergies renouvelables est, selon vous, mesdames et messieurs, une nécessité absolue pour le continent africain. Voyons maintenant comment on finance le développement de ces énergies. Charlotte Aubin-Calédian, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple de champ de production que vous avez contribué à créer ? Vous évoquiez l'exemple sénégalais. Comment est-ce qu'on finance un champ de production solaire comme celui que vous avez construit à la frontière mauritanienne et qui est relié à Dakar par le réseau ?
Alors, un projet de 20 mégawatts, ce projet représentait 26 millions d'euros d'investissement, avec 26 millions d'euros d'investissement, avec un contrat sur 20 ans avec la société d'électricité, sachant qu'une ferme solaire va produire plutôt sur 25 ans, les panneaux ont une durée de vie de 25 ans, et ça se finance une partie en fonds propres, mais aussi avec beaucoup de dettes dans le cadre du continent africain fournies par les banques de développement. Parce qu'il faut des banques qui ont des capacités de prêter sur des durées très longues pour étaler au maximum le remboursement de l'investissement et donc offrir un prix, un tarif très compétitif. Ce qui veut dire que dans le cadre de ce projet, nous avons une dette sur 18 ans qui correspond à peu près au contrat et qui nous permet d'étaler le remboursement de l'investissement sur une durée très longue et d'offrir un tarif très compétitif aux États.
Mais vous voulez dire que si vous vous adressez, vous, Charlotte Aubin-Calédian, à une banque privée française ou anglaise ou américaine pour financer ce projet, c'est un refus net parce qu'il y a trop de risques ou c'est pas assez rémunérateur? Qu'est-ce qu'on vous répond?
La bonne nouvelle, c'est que les banques commerciales internationales qui ont beaucoup financé le développement des énergies renouvelables dans les pays occidentaux, aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique. Et donc, on espère pouvoir très prochainement avoir ces bailleurs de fonds, les banques comme la BNP, la Société Générale. Alors, il y a quelques banques sud-africaines qui sont déjà en capacité et qui impliquées dans le financement des énergies renouvelables sur le continent. Mais les banques occidentales sont encore assez frileuses. Et j'espère qu'avec ces premiers projets maintenant en opération, on va avoir plus de banques commerciales. Et pas seulement. Un des sujets que j'évoquais hier avec des contreparties gouvernementales françaises, c'est la mobilisation du secteur privé. Je pense aux fonds de pension, je pense aux assureurs internationaux qui aujourd'hui sont en recherche de rendement, ne savent pas où investir leur argent pour honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs retraités ou assurés, qui, avec des systèmes de garantie apportés par les banques de développement, pourraient mobiliser des milliards et des milliards ou des milliers de milliards pour financer le développement des infrastructures sur le continent. Et donc, nous sommes très proactifs dans ces structurations de nouveaux véhicules pour répondre à deux problématiques. Trouver des opportunités d'investissement pour les grands assureurs et fonds de pension internationaux, mais aussi libérer des sources de financement à long terme pour financer le développement des infrastructures sur le continent africain.
Mireille Chiroulot-Assouline, le renouvelable en Afrique ne se développera que si le privé y met sa contribution ?
Il est vraisemblable que c'est une condition nécessaire. Alors, on peut se dire que certaines pressions informelles peuvent amener ces banques commerciales à se tourner davantage vers ces marchés. Quand je parle de pressions informelles, je veux dire, par exemple, la pression à exercer une responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise pour les banques. Ça passe par le financement de projets qui soient favorables à l'environnement. Et il y a la pression qui peut être organisée par certaines ONG qui dénoncent les implications d'entreprises ou de banques dans des projets d'énergie fossile ou des projets qui sont très nuisibles à l'environnement et qui favorisent donc la réorientation des investissements vers des projets renouvelables.
Fabrice Le Sachet, vous nous disiez au début de l'émission que vous aviez contribué au financement du projet sénégalais de Charlotte Aubin Caledjian, si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous intervenez pour financer ces projets?
Alors, nous n'avons pas contribué au financement. Nous avons accompagné la certification du projet de Bocol auprès de l'ONU. C'est-à-dire que nous avons fait la démarche de faire reconnaître les tonnes CO2 qui seront évitées, qui sont évitées par ce projet. Et nous réussissons, grâce à cette certification, à les convertir en crédit carbone. Une tonne de CO2 évitée, un crédit de carbone, et chaque crédit de carbone a une valeur monétaire, donc ça contribue à générer des revenus supplémentaires.
C'est-à-dire que pour chaque tonne de CO2 évitée, vous émettez un certificat, un morceau de papier,
tout à fait,
que vous pouvez commercialiser?
Exactement, à des entités qui les achètent parce qu'elles doivent respecter des réglementations CO2 ou des entreprises qui veulent compenser volontairement leurs émissions CO2. Mais je souhaiterais être très concret peut-être pour bien faire comprendre ce système et l'avantage que ça peut octroyer à des porteurs de projets. À Madagascar, un barrage hydroélectrique de 16 MW a généré 1,5 million d'euros de revenus complémentaires. À l'île Maurice, un projet solaire de 14 MW, en un an, 100 000 dollars.
Avec les crédits carbone.
Avec les crédits carbone, grâce à nous. C'est ce qu'on a envoyé à ces projets. Un programme de four de cuisson domestique, de four de cuisson efficace qui économise le charbon de bois au Ghana, 50 000 fours de cuisson efficaces, 300 000 euros de générés. Donc ça aide ces projets à accélérer. Parce que la question n'est pas de savoir si les énergies renouvelables sont rentables, elles le sont, mais c'est d'accélérer le déploiement parce que ce n'est pas encore la pratique courante dans tous les pays. Donc il faut accélérer.
Mais par exemple, si un village au milieu de la brousse ivoirienne ou au Niger veut créer son four à combustion et générer de l'énergie renouvelable, est-ce qu'il peut vous contacter pour faire certifier sa production et obtenir des crédits carbone, ou est-ce que le monde de la finance auquel vous appartenez ne s'intéresse qu'à des grands projets?
Alors non, le monde de la finance ne s'intéresse pas qu'à des grands projets. Il faudra très certainement agréger les demandes de tous ces villages pour faire un programme. Et lorsque je vous parlais de fours de cuisson efficaces, il ne me semble pas que ce soit des grands projets. C'est au niveau domestique.
Vous parliez de 50 000.
Bah oui, mais donc on fait des programmes. On essaye d'avoir un impact massif, mais on distribue ça au niveau des foyers domestiques. Et vous savez, le charbon de bois, l'évitement du charbon de bois, on n'en parle pas beaucoup, on parle d'énergie, mais 80% de l'énergie consommée en RDC, c'est du charbon de bois, qui provient de quoi? De la déforestation. Et c'est une matière première structurellement tendue. Elle est gratuite, mais vous avez des coûts de transport. Et ça, c'est extrêmement grave. Et cette typologie de projet a des impacts aussi sur les objectifs de développement durable. Des impacts très très forts. Donc évidemment, c'est important de disséminer ces technologies dites de base de pyramide pour les populations.
Charlotte Aubin-Caledjian.
Oui, alors nous sommes des grands fervents de ces crédits carbone et travaillons beaucoup avec Fabrice sur tous nos projets. Ce que l'on fait en fait de ces revenus des crédits carbone, on les utilise pour compléter nos budgets d'action sociale autour de nos projets. Très clairement, un projet d'énergie renouvelable en site isolé est forcément inclus et doit être inclusif des communautés locales. C'est parce que c'est eux qui mettent à disposition les terres, parce que on emploie les gens et on les forme, les gens de cette communauté. Et donc, un projet ne peut vivre sur sa durée. On va parler des projets éoliens au Kenya qui ont beaucoup de problèmes sur ces sujets-là. Un projet ne tient sur sa durée que s'il tient compte du développement des communautés locales. Et donc, pour nous, les crédits carbone viennent compléter les budgets que l'on met déjà dans nos revenus pour accompagner le développement des communautés. Alors, je souligne un dernier point qui est la question de la compétitivité. Dans le contexte de l'Afrique, pour moi, la problématique est avant tout une problématique économique avant d'être une problématique environnementale. Pourquoi ? Parce que quand on n'arrive pas à nourrir et électrifier cette génération, penser aux générations suivantes et l'impact du climat, ça reste secondaire. La bonne nouvelle, c'est que ces énergies renouvelables et tous les projets que nous faisons sont compétitifs d'un point de vue économique par rapport aux énergies fossiles et aux énergies à disposition. Et ça, pour moi, c'est clé. C'est que la problématique première, c'est l'électrification avant l'impact environnemental. C'est un luxe de pouvoir penser aux générations futures sur l'impact climatique. Mais Dieu merci, les énergies renouvelables sont aussi compétitives.
Mireille Firoleu-Assolin, brièvement.
Oui, je voulais.
Sur les crédits carbone.
Oui, je voulais juste souligner que ce mécanisme de crédit carbone est tout à fait complémentaire de d'autres mécanismes de crédit carbone qui existent, par exemple, pour lutter contre la déforestation. Et donc, là aussi, on atteint plusieurs objectifs en déployant le même type d'instrument.
Alors, on évoquait le Sénégal il y a quelques instants. On va changer de région tout en restant en Afrique. Le Kenya est surtout connu pour sa production géothermique, une source d'énergie dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais depuis peu, il s'est lancé dans l'énergie éolienne à Ngong Hills, un parc éolien situé à 30 km de Nairobi. Un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Abla Junaidi.
Sur les collines de Ngong, les éoliennes font tournoyer leurs pales sous l'œil des moutons, des buffles et des amateurs de randonnée. Sur ces terres Maasai, le vent souffle à plus de 10 mètres par seconde, un potentiel décelé il y a 30 ans. Année après année, 30 turbines, bientôt 35, auront poussé ici grâce notamment à des prêts concessionnels de la Belgique et de l'Espagne. Nicolas Moutai, ingénieur chez KenGen, la compagnie d'électricité kenyane qui gère le site.
En bas, c'est la vallée du Grand Rift. Avant, il n'y avait quasiment rien de construit ici. Au fil du temps, beaucoup de projets sont nés. Là, il y a l'extension d'une nouvelle ligne de train. KenGen a aussi construit des écoles pour les communautés, des équipements pour les bergers Maasai.
Ngong Hills est le seul parc éolien à être connecté au réseau national. Mais avec ses 26 mégawatts, il est minuscule comparé au projet pharaonique du lac Turkana à 600 km plus au nord dans la vallée. Attendu en décembre, le projet sera le plus grand parc d'Afrique subsaharienne. C'est avec des projets de cette envergure que le Kenya veut multiplier par 7 sa capacité électrique d'ici 2030 afin d'accompagner le développement économique. Joël Ngugi, directeur des opérations chez KenGen.
L'électricité produite par les centrales thermiques coûte cher. On souhaitait des méthodes à la fois écologiques et qui fassent baisser le prix de l'électricité. Pour l'éolien, on a commencé avec Ngong. On a aussi le projet de Meru qu'on veut lancer en 2018 et qui doit produire 80 MW. Les études sont en cours et il y a des questions foncières à régler. Quand ce sera fait, nous passerons à l'étape suivante. Des financeurs sont prêts.
En effet, les derniers obstacles levés, l'Agence française de développement prêtera 60 millions d'euros à KenGen pour le projet de Meru. Bruno De Prince, directeur régional de l'agence, qui consacre la moitié de son portefeuille au Kenya à l'énergie.
C'est vrai que le Kenya est un bon élève. Le Kenya produit, je crois, plus de 80% de son énergie en énergie renouvelable. C'est assez remarquable et nous, on est là pour les accompagner dans cette direction-là. On a 50% de la population qui a accès à l'électricité en comparaison de 20% il y a 6 ans. C'est un très, très, très beau résultat. Et le Kenya peut s'enorgueillir d'avoir 80% de production d'énergie renouvelable. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont à ce niveau-là, surtout sans énergie nucléaire.
L'agence développe aussi son programme SunRef en partenariat avec le réseau bancaire kényan pour financer à taux bonifié des projets du secteur privé dans les énergies renouvelables.
Un reportage signé Abla Junaidi près de Nairobi dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons, vous l'avez compris, des énergies renouvelables en Afrique avec trois invités. Fabrice Le Sachet, président du groupe AERA, Mireille Firoleu-Assolin, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Charlotte Aubin-Calédian, présidente de la société Greenwich. Fabrice Le Sachet, je vous voyais noircir des pages entières pendant ce reportage. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce que vous notiez?
Non, c'était juste un petit tempérament par rapport à ce que disait Charlotte sur l'urgence de la transition climatique. Mmh. Pour moi, c'est une
donc,
question.
Donc, c'était pas sur le reportage.
Non, c'était pas sur le reportage.
Avant.
Mais c'est un point extrêmement important parce qu'on oppose souvent dans les débats le développement économique et l'économie bas carbone ou la transition climatique. Mais sur le continent africain, les effets du réchauffement sont immédiats. Le stress hydrique, la raréfaction des ressources en eau, la modification des sols agricoles qui entraîne des migrations internes. Parce qu'on parle beaucoup de la crise migratoire chez nous, mais 90% des migrations sont sud-sud. Vous avez des effets déstabilisateurs. Vous avez l'énergie fossile qui plombe la compétitivité des industries locales. Comment voulez-vous exporter ? Forcément, vous importez, vous n'êtes pas compétitif. Vous avez l'érosion côtière, de multiples enjeux. Il est urgent, et puis sans parler de la hausse des températures, c'est insoutenable dans le Sahel, de l'accroissement des événements climatiques extrêmes. Donc c'est urgent d'atténuer et de s'adapter au réchauffement planétaire. Et je pense que l'Afrique, grâce à la transition climatique, peut générer une économie verte, créatrice d'emplois, non délocalisables, réaliser les fameux leapfrogs, ces sauts technologiques par diverses technologies. Et ça, je pense que c'est vraiment un point d'accélération pour le continent, pour se hisser sur des secteurs de pointe à l'échelle internationale.
On entend votre enthousiasme et votre conviction, votre force de conviction. Mireille Chiroule-Assouline, cet exemple que nous donnait Abla Junaidi près de Nairobi, c'est un bon exemple de ce qui doit se faire?
Ah ben c'est un excellent exemple et il me semble que c'est un exemple parmi d'autres de l'un des atouts considérables de l'Afrique dans cette lutte pour une énergie plus propre, c'est que l'Afrique, en raison d'un historique d'investissement insuffisant dans des infrastructures, n'est pas bloquée dans une structure productive actuellement, comme le sont certains pays occidentaux. Il n'y a pas de nucléaire installé, il n'y a pas de démantèlement de centrales à envisager et par conséquent, certes, il y a des besoins d'investissement très importants, des besoins de financement importants, mais ils peuvent être tout de suite consacrés aux technologies les plus modernes et les plus propres.
Charlotte Aubin, est-ce que l'argent qui afflue vers l'Afrique, je pense au programme des Américains, par exemple Barack Obama s'était rendu sur le continent africain et avait déclaré que l'argent allait affluer, est-ce que cet argent va vers le renouvelable ou est-ce qu'il va plutôt vers des énergies fossiles ?
Alors, l'argent va vers tout en Afrique. L'enjeu sur l'Afrique, c'est pas vraiment l'accès au financement. On a reçu 250 millions de dollars d'investisseurs américains pour nos projets et on a justement ce soutien de Power Africa, du programme Obama. Et on a beaucoup, beaucoup d'investisseurs et de bailleurs de fonds qui viennent nous solliciter pour investir dans nos projets. La difficulté, elle est pas dans l'accès au financement. La difficulté, elle est dans la finalisation et la réalisation des projets. Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'il faut aligner beaucoup de compétences et beaucoup de parties autour de la table pour finaliser ces projets. Il faut des acteurs comme nous, compétents sur le plan technique, contractuel, mais aussi financier. Il faut des équipes locales qui connaissent le contexte local de chaque pays, d'un point de vue politique, d'un point de vue administratif et opérationnel. Et puis, il faut des contreparties étatiques, on l'a évoqué auparavant, ou des contreparties industrielles, que les mécanismes de structuration, de projets et de financement soient rodés. Et aujourd'hui, on a passé quand même une grande étape, parce qu'on a une série de projets solaires, éoliens, qui ont été réalisés et qui peuvent faire boule de neige et être répliqué sur plusieurs pays. On a cette contrainte aussi des réseaux qui limite le potentiel du renouvelable. Je souligne souvent la lourdeur des bailleurs de fonds banques de développement qui sont clés, comme je l'évoquais aujourd'hui, dans les énergies renouvelables et qui ont des processus de décision et d'approbation très lourds, très coûteux et qui pour moi ralentissent, alors que leur mandat est d'accélérer, ralentissent souvent la réalisation de ces projets.
Ça s'applique à l'Agence française de développement dont on entendait un témoignage dans le reportage d'Abla Junaidi.
Alors l'Agence française de développement s'adresse au secteur public, ce serait plutôt sa contrepartie Proparco
qui
s'adresse au bras privé. Ouais. Et ça, comme toutes les autres banques de développement, sont nécessaires. Certaines sont de plus en plus agile pour financer ses plus petits projets, pour avoir des processus d'approbation plus rapides, plus flexibles. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour accélérer cette mise en place de ces financements.
Mireille Chiroule-Assouline, ce sont des problèmes que vous embrassez, vous, en tant que théoricienne du développement durable ?
Alors, les problèmes que mentionnait Madame Aubin-Kaladjian juste à l'instant sont plus des problèmes de gouvernance. Et là, ce sont plus des problèmes managériaux que des problèmes économiques, au fond. Parce que sur le plan économique, ce que moi j'enseigne, c'est la nécessité d'avoir des incitations monétaires. Si les investissements sont profitables, des entreprises vont trouver intérêt à investir dans ce genre de structure. voitures. Si elles ne le sont pas suffisamment, le bonus procuré par les crédits carbone peuvent pousser à le faire. Des systèmes de taxes et par exemple de suppression de subventions nuisibles à l'environnement. Or, dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a encore des subventions pour les ménages à l'utilisation des énergies fossiles. Cette suppression des subventions, c'est l'un des éléments qui est plus généralement rattaché à la fiscalité environnementale, mais qui est fondamental dans ces pays-là comme dans le nôtre.
On parlait tout à l'heure des promesses de Barack Obama et de l'afflux de financement américain. Est-ce que la volonté de Donald Trump de se retirer des accords de Paris, de la COP21, menace ces financements vers l'Afrique ?
Alors, j'ai l'impression que ça peut avoir peut-être une influence sur certains financements qui auraient été publics, mais un grand nombre de financements américains viennent de fondations, viennent de grandes entreprises. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises justement en réaction à la déclaration de Donald Trump. Donc je ne suis pas sûre, il est difficile pour l'instant de prévoir exactement quels seront les effets. Il est vraisemblable qu'il y aura une baisse de la contribution des États-Unis. Peut-être sera-t-elle compensée par ailleurs.
Fabrice Le Sachet ?
Non, vous évoquez le programme Power Africa, mais en fait, ce programme, c'est un reformatage de fonds qui existaient. Vous avez une partie de USAID, à peu près 7 milliards, et des capitaux privés. Je crois que le total atteint 30 milliards de dollars, vous m'excuserez à quelques milliards près. Mais en fait, ce sont des dispositifs qui étaient déjà actionnables, qui ont été rationalisés, optimisés. C'est en quelque sorte un peu marketing. D'une certaine façon, ces financements, ils continueront d'exister dans les années à venir. Et ils ont été confirmés. Mais c'est la France aujourd'hui qui a l'initiative en matière énergétique en Afrique. Vous avez vu les ETI que nous avons ? Aqua Énergie, Quadrant, Greenwich, Eren Energy au Burkina, au Cameroun, les grands groupes Total, Bolloré. Nous sommes à l'initiative et peut-être un peu moins visibles. Et là, on a un effort à faire parce que c'est une de nos valeurs ajoutées.
On part en Afrique du Sud où l'électricité était, il y a encore 20 ans, l'une des moins chères au monde. Depuis, son prix a été multiplié par 4 pour atteindre les niveaux connus dans les pays développés. La grande majorité de l'électricité est produite par Eskom, la compagnie publique qui connaît de nombreux problèmes, de nombreux déboires, avec beaucoup de centrales à charbon et aussi une centrale nucléaire, on n'en a pas parlé dans cette émission. Mais de plus en plus de panneaux photovoltaïques font leur apparition sur les toits des immeubles commerciaux de Johannesburg. Un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Noé Ochebaudin.
Les 300 mètres carrés du toit de Cresta Junction, un immeuble qui abrite 8 entreprises, sont truffés de panneaux solaires. Tous disposés en rang, ils peuvent produire presque la moitié de l'électricité du bâtiment quand le soleil est à son zénith. David Kuwengwa est ingénieur de l'entreprise Emergent Energy qui a installé les panneaux.
Sur 100 mètres carrés et lorsqu'il n'y a pas d'ombre, on peut utiliser 90% de la place, c'est-à-dire poser environ 300 panneaux. Par exemple ici, au mieux, on produit 93 kW par heure, donc on peut alimenter 40% de l'immeuble avec de l'énergie solaire. Le reste, c'est l'électricité d'Eskom. On ne pourrait jamais fournir 100% de l'énergie, sinon Eskom n'aurait rien, car ce sont eux qui nous donnent l'autorisation de mettre nos panneaux. Nous avons un pourcentage maximal qui doit toujours être inférieur à l'électricité produite par Eskom.
Mais lorsque l'on demande aux locataires du bâtiment quel est l'impact sur leur facture d'électricité, ils ne sont pour la plupart pas au courant de la présence des panneaux. Pour une raison très simple, le principal bénéficiaire est le propriétaire du bâtiment. Le consommateur final ne voit pas de changement, il paye son électricité au même prix, qu'importe son origine. Souraj Lachan est analyste chez Fed Group, propriétaire de l'immeuble.
Le coût de l'électricité produite par les panneaux solaires est pour nous bien moins cher que celle du réseau ou celle de la municipalité. L'électricité est donc consommée par les locataires qui nous payent leurs factures. Et nous payons ensuite les investisseurs qui ont acquis les panneaux solaires.
Car Souraj fait appel à des investisseurs comme Michael Field pour acheter les panneaux. Michael en possède 2 sur ce toit.
Je les ai achetés il y a un an pour 310 euros chacun. Et en une année, je touche déjà 10% de mon investissement.
Une initiative pour faciliter leur mise en place, car aujourd'hui seulement 2% des toits disponibles de Johannesburg accueillent des panneaux solaires. Mais le marché est en pleine expansion, selon Johan Joyeux, l'ingénieur en chef d'Emergent Energy.
Ce qui fait que que l'énergie solaire est maintenant compétitive en Afrique du Sud, c'est un, le renchérissement des coûts de l'électricité, et puis de l'autre côté, le coût du solaire qui est devenu beaucoup plus bas.
À relativiser cependant, tant la compagnie nationale d'électricité, Eskom, limite les projets de peur de perdre son monopole.
Aujourd'hui, Eskom oppose ce qu'on pourrait appeler des délais administratifs, mais qui bloquent la mise en œuvre des projets finalement, parce que si l'investisseur n'a pas la garantie qu'Eskom va lui racheter l'électricité pendant 20 ans, il y a un gros risque à se lancer dans un projet très intense en capital sans avoir cette certitude. Donc Eskom s'est passé d'un délai administratif à un blocage.
Des blocages qui se traduisent même parfois par des lettres de menace, mais plusieurs municipalités, notamment dans la région du Cap, se tournent vers le solaire, plus vert et moins cher.
Un reportage signé Noé Hochet-Baudin à Johannesburg. Les consommateurs, finalement, ils n'en voient pas l'avantage, la différence, Charlotte Aubin, dans ce reportage, parce qu'ils payent le même prix que pour les énergies fossiles. C'est un problème pour motiver une société civile.
Alors, je vais élargir de ce contexte de l'Afrique du Sud. Dans nombreux pays, l'électricité est subventionnée pour les populations parce qu'elle est bien, bien trop chère. Mais même subventionnée, elle reste astronomiquement trop élevée. Je pense par exemple cet exemple. Au nord du Nigeria, un consommateur privé paiera 60 à 80 fois plus cher l'électricité qu'un New-Yorkais. Comment voulez-vous développer l'économie, le petit commerce, le pouvoir d'achat des populations sans qu'on ait un tarif qui soit compétitif? Et encore une fois, dans ce contexte-là, les énergies renouvelables apportent des solutions, soit par les réseaux en réduisant le coût du mix énergétique. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Hein. On était à 40% de moins du coût du mix énergétique quand on a raccordé notre centrale solaire, mais aussi pour des solutions décentralisées qui permettent de remplacer les générateurs au diesel, les lampes au kérosène par des solutions propres et qui coûtent beaucoup moins cher.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous trois, Fabrice Le Sachet, Charlotte Aubin-Calédian, Mireille Chirou-Le-Assouline, d'avoir participé à cette émission qui était réalisée et mise en onde par Julien Maguarou. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.